avons su cette sainte esprit ainsi soit-il. Qu'il nous soit permis ce soir, mes chers frères, de nous entretenir des splendeurs de la très sainte Vierge de Marie. Devant le Saint-Sacrement exposé, nous chantons, en l'honneur de la très sainte Vierge de tout à l'heure, un chant qui nous vient du fond des âges chrétiens. Et la faute originelle n'est pas en vous. Votre vêtement est blanc comme la neige, et votre visage est pareil au soleil. Vous êtes toute belle, Marie, et la faute originelle n'est pas en vous. Vous êtes la gloire de Jérusalem, vous êtes la joie d'Israël, vous êtes l'honneur de notre peuple. Oui, Marie, vous êtes toute belle. Rien ne peut mieux nous introduire dans la des splendeurs de Marie, dans l'évocation du mystère de la Vierge bénie entre toutes les femmes, que ses paroles antiques aient reprises, siècle après siècle. Dans les sanctuaires où l'on vient invoquer la Sainte Vierge, la foule qui s'y presse dans une dévotion souvent naïve et simple, redit à Marie qu'elle est belle. Et je me souviens d'avoir eu l'histoire d'un préfet religieux au couvent royal de Saint-Maximin, en Provence, qui chaque jour après le déjeuner s'en allait dans la campagne, cueillir pour la Vierge du cloître quelques fleurs des champs. Sans doute, ce vieux dominicain très savant fredonnait-il alors dans sa barbe d'argent le même chant qu'il entonnait du temps qu'il était novice. Tota ultra es Maria. Ô Marie, comme vous êtes belle. Ce soir donc, mes amis, je ne puis que vous inviter à chanter tout à l'heure avec un cœur de fils, avec un cœur ces paroles tendres et sobres où transparaît l'allégresse de l'Église entière. Elle y chante sa mère chérie, auprès de laquelle pâlissent toutes les beautés de la terre. Saint Alphonse de Ligorie, d'ailleurs, se fait la réflexion suivante, qui ne manque pas de bon sens. S'il était donné à un excellent peintre d'avoir une épouse belle ou difforme, selon le portrait qu'il en ferait, comme il s'appliquerait à la représenter aussi belle, qui donc oserait dire que le Saint-Esprit est agi différemment à l'égard de Marie, et que pouvant se donner une épouse toute belle, il ne l'ait moins fait. Non, ce qu'il pouvait faire, ce qu'il convenait qu'il fît, il l'a fait. N'est-ce pas d'ailleurs ce qu'atteste la Sainte Écriture dont l'Église applique ce verset du Cantique des Cantiques à la Vierge Marie. Vous êtes toute belle, ô mon ami, il n'y a point de tâche. Tota ultra es Maria. Voilà la Sainte Écriture telle que les siècles chrétiens l'ont publiée. La tendre amie de Dieu, celle que le Christ Jésus a voulu s'associer dans son œuvre de salut, l'épouse bien-aimée de l'Esprit, la fille du Père, la mère du Fils, c'est Marie que nous chantons ce soir. Comme il nous est doux, mes frères, d'entendre dans notre chère chapelle ces paroles du cantique sacré, il n'y a point de tâche en vous. Nous y reconnaissons avec évidence la foi de l'Église telle que le bienheureux pape Pie IX l'a solennellement définie. La bienheureuse Vierge Marie, dans le premier instant de sa conception, a été par une grâce et par un privilège spécial du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée et exempte de toute tâche du péché originel. Elle le dira d'ailleurs elle-même, peu après, à Sainte Bernadette, « Je suis l'Immaculée Conception ». Et le Saint Pontife devenait presque lyrique dans ce texte que je ne résiste pas à citer plus longuement. Le pape célèbre la Vierge Bienheureuse, qui toute belle et toute immaculée a écrasé la tête venimeuse du cruel serpent et a porté le salut du monde, qui est la louange des prophètes et des apôtres, l'honneur des martyrs, la joie et la couronne de tous les saints, le refuge le plus assuré de tous ceux qui sont en péril, le secours le plus fidèle, la médiatrice la plus puissante auprès de son Fils unique pour la réconciliation du monde entier. Elle est encore la gloire la plus belle, l'ornement le plus éclatant, le plus solide appui de la Sainte Église, elle qui a détruit toutes les hérésies, elle qui arrache les peuples et les nations fidèles à toutes les grandes Ces titres, mes chers frères, particulièrement dans les temps où nous sommes, nous pressent d'invoquer Marie, de nous tourner vers elle dans nos nécessités, mais encore de réaliser avec une gratitude nouvelle la très grande grâce que la Sainte Providence nous a bien voulu faire en nous plaçant ici même sous le patronage de l'Immaculée. Souvent, mes chers frères, l'appréciation commode vient s'éteindre sur nos lèvres. L'Immac, nous allons à l'Immac, oh, loin de vous en faire reproche, comme au contraire, je me réjouis que nous nous disions ainsi liés à cette chapelle, à ce lieu où pleuvent les bienfaits de Dieu, mais plus encore à celle qui, dessus l'autel, vient de voiler ce soir très tendrement, dans le silence et sa modeste figure, veille sur chacun d'entre nous. Et c'est Marie, notre Immaculée. Oh mes frères, si vous le voulez bien, prenons l'habitude plus chrétienne de parler de l'Immaculée plutôt que de l'Immac. Nous le ferons volontiers, j'en suis sûr, par respect pour le nom de la très sainte Vierge, mais encore avec cette nuance de gratitude pour tout ce qu'il se fait de bon dans cette communauté, parce que tout ce bien trouve sa source dans l'intercession continuelle de cette douce mère qui veille là-haut sur nous. Tota pulchra est Maria, comme vous êtes belle, Notre-Dame, et la splendeur qui jaillit par toutes les fibres de votre être, l'Église en situe la raison dans votre Immaculée Conception. Vous êtes, selon l'heureuse formule de Bernanos, vous êtes plus jeune que le péché. Et pour reprendre les termes du vieux cantique que nous évoquons ce soir, la tâche originelle n'est pas en vie. Comme aimait à le dire Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le privilège unique de la Sainte Vierge, c'est d'avoir été exempte de la tâche originelle et d'être mère de Dieu. Cela va de pair, car c'est en vue de la maternité divine que la Vierge fut immaculée dans sa conception même. Elle n'est l'Immaculée que pour être la digne mère de Dieu. Et la petite Thérèse de continuer en t'ensant sévèrement les pécheurs que nous sommes, on sait bien que la Sainte Vierge est la reine du ciel et de la terre, mais elle est plus mère que reine. C'est bien de parler de ses prérogatives, et nous allons faire cela ce soir, mais il ne faut pas se borner à cela, il faut la faire aimer. Comme elle a raison, mes frères, la petite religieuse du Carmel de Lisieux, comme elle a raison, car si la Sainte Vierge est cette reine admirable, redoutable aux démons, secourable aux pécheurs, c'est bien d'abord parce qu'elle est mère de Jésus et notre mère. Et si ce soir nous tâchons de mieux entrer dans le bouquet très varié des splendeurs de Marie, c'est afin que chacune devienne une raison de plus d'aimer Marie. Mais la plus grande, bien sûr, c'est sa maternité. Maternité de grâce, parce qu'elle nous fait le don de l'auteur de la grâce. Maternité divine, parce qu'en nous donnant Jésus, c'est le principe du salut qui nous est offert par ses mains. Ce soir, en évoquant la Vierge incomparable, j'ai la tête pleine encore des textes liturgiques des derniers jours. Mercredi, nous fêtions l'Annonciation, avec tout ce que ce mystère conserve d'invisible en même temps que de si touchant. Cette petite jeune fille, tout imprégnée de la foi d'Israël, toute pénétrée des promesses de Dieu faites à son peuple, elle priait qu'enfin Dieu envoie le Messie libérateur, le Sauveur promis, et son sein s'est ouvert pour accueillir l'Emmanuel, Dieu avec nous. Or, la première de notre race, chez qui vint Dieu, c'est Marie. Elle est l'arche d'alliance, celle en qui le salut du monde est scellé dans le fiat si humble et si total dont elle fait réponse à l'ange. Vendredi, nous célébrions la Vierge des douleurs, Notre-Dame des sept douleurs. Retenons-en la souffrance de Marie, son trouble, son angoisse, quand Siméon lui prédit qu'un glaive de douleur devait lui transpercer le cœur. Et ce matin encore, après l'office très solennel, évoquant le triomphe de notre Seigneur entrant dans Jérusalem, l'Évangile nous a conduit jusqu'au trône de ce roi couronné d'épines. Il nous a pris par la main pour nous mener jusqu'au calvaire. Là encore, nous savons que Marie était là. Saint Jérôme écrivait en commentant l'adorable scène, qu'il n'y avait pas une seule douleur dans le corps de Jésus qui ne fut pas en même temps une blessure pour Marie. Et pour mieux dire encore, l'unité si mystérieuse du Fils et de la Mère, à l'heure de tout accomplissement, Saint Bonaventure s'interroge. Ô ma souveraine, où est-il ? Près de la croix ? Non, je ne peux pas le croire. Je dirais plutôt que vous étiez sur la croix même, crucifié avec votre Fils. Et l'on comprend, mes frères, que le peuple chrétien ait voulu regarder Marie comme sa co-rédemptrice, comme l'expliquait si bien l'abbé Dufour au début de ce carême. L'Annonciation, ou le Verbe de Saint-Cadre, pour nous les hommes et pour notre salut, et c'est le sein de Marie qui le choisit pour venir à nous. La présentation de l'enfant au temple, et c'est encore à Marie qui a annoncé la destinée douloureuse de celui qui ne se ménagera pas pour nous crier sans cesse son amour infini. Le calvaire, enfin, où se trouve toujours Marie, Stabat Mater Dolorosa, si belle dans sa foi douloureuse et totale. Mes chers frères, en suivant du regard de notre âme la destinée magnifique de la bienheureuse Vierge, nous découvrons avec évidence la grande union, la relativité totale même de la mère à son Fils, parce que Marie n'est co-rédemptrice que dans son union maximale au Rédempteur de nos âmes. Marie n'est encore notre mère que parce qu'elle est par choix divin celle qui fut choisie pour être de Jésus la mère. Ainsi, en connaissant Jésus, nous connaîtrons Marie. C'est la loi de la génération humaine qui veut que les enfants ressemblent à leurs parents. Et cela est vrai pour notre Seigneur, car si sa sainte âme fut créée par Dieu à l'instant de l'incarnation dans la petite maison fraîche et discrète où vivait Marie, dans le pur bourgade qu'était alors Nazareth, son corps modelé par Dieu lui-même, fut tiré de la chair très pure et très parfaite de Notre-Dame. Et la noblesse de celui que l'Écriture appelle le plus beau des enfants des hommes n'est pas sans rappeler la splendeur de la Vierge sa mère. Et ce n'est point là ressemblance seulement physique, car nous le savons, la splendeur d'une âme, c'est éclairer un visage et transmettre à un corps même usé une dignité qui ne trompe pas. Comment douter alors que l'âme si haute de Notre-Dame n'est pas marquée d'une pareille noblesse, son aspect, les traits de son visage, la profondeur limpide de son regard. Par ailleurs, souvenons-nous que Marie, Mère de Dieu, n'en est pas moins sa fille, sa créature. Or, celle que Dieu a possédée si pleinement en la remplissant de sa grâce, dès le premier instant de son être, comment ne ressemblerait-elle pas, elle aussi, à ce Dieu des mains duquel elle est sortie immaculée? Mes frères, pour le dire en un mot, la splendeur de Marie, en toute sa personne, découle de son union avec Jésus. Mais une union qui ne s'arrête pas à l'ordre moral, car Jésus et Marie ne sont pas simplement deux personnes qui s'aiment grandement. Non, Jésus est Dieu et Marie est la mère de Jésus qui est Dieu. Mère de Dieu, comme on comprend en regardant Jésus ce que doit être la femme qu'il a portée en elle. Hugues de Saint-Victor nous le fait comprendre d'un mot, tel l'agneau, tel sa mère, car on connaît l'arbre à son fruit. Avant de reprendre le commentaire du Notre Graes, permettez pour détendre pieusement votre attention sans faille que je vous conte une petite histoire. Elle n'est pas de mon fait, bien sûr, car vous le savez, cet exercice n'est pas mon fort. Mais pour une fois, puisque nous avons le temps, rien de tel qu'un petit exemple. Donc, Saint-Alphonse, toujours inépuisable en anecdote, rapporte que jadis vivait tout près d'ici, à Paris, un vieux ecclésiastique, fort dévot à la Sainte Vierge. Tel était l'amour dont il brûlait pour elle, qu'ayant entendu exalter sa beauté, il souhaitait ardemment la contempler en France. Ses prières pour obtenir cette faveur se firent si multipliées, si insistantes et en même temps si humbles qu'il fut un jour exaucé. Notre miséricordieuse Vierge lui fit donc porter par un ange ce message. « Oui, vous verrez la Sainte Vierge, lui dit-on, mais à une condition, c'est qu'après l'avoir vue, si vous le voulez bien, vous ne verrez plus autre chose sur la terre. et vous serez aveugle jusqu'à votre dernier. » Le prêtre, évidemment, hésita un moment avant de finalement d'accepter. Mais comme tout bon français, il était un peu fini. Et quand la Sainte Vierge lui apparut, il se mit la main sur un œil, afin d'en conserver au moins. Seulement, quand il vit la très Sainte Vierge, dans tout l'éclat de sa beauté, il fut pris, nous dit saint Alphonse, d'une telle ivresse de joie qu'il allait la contempler de ses deux yeux, quand soudain, Marie disparut et lui retira sa présence. Vous n'imaginez pas, mes frères, comme le pauvre homme en fut contrit. Au milieu de la désolation, il passait ses jours à devoir pleurer, non pas d'avoir perdu un œil, mais de n'avoir pas contemplé Marie de ses deux yeux. Et il se remit à prier pour que Marie daigne le miracle lui apparaître encore. Et cette fois, il lui disait sans fin, « Ô ma reine, comme je serais heureux de devenir complètement aveugle, pour la seule joie de vous revoir, parce que même aveugle, j'en aurais plus d'amour pour vous et pour votre beauté si grande. » Et Marie, par la lumière, lui apparut de nouveau. Mais comme cette tendre et charitable mère ne saurait faire de mal à personne, non seulement elle ne rendit pas mais elle lui rendit pleinement la vie. L'histoire est authentique. Je ne sais, Dieu le sait, saint Alphonse ne le dit pas, mais peut-être pourra-t-elle inscrire en nous ce grand désir de voir un jour Marie en ce monde, par miracle, s'il lui plaît, ou dans l'autre, la nous espérons fermement, si nous l'aimons ici-bas, comme un enfant doit aimer sa mère. Le docteur de Graès se poursuit alors, avec diverses expressions tirées de la Sainte Écriture. Et dans une litanie un peu étrange, à nos oreilles mal habituées, nous voyons Marie être appelée la gloire de Jérusalem, ou encore la joie d'Israël et l'honneur de notre peuple. Il faut qu'ici, très simplement, nous rappeler le sens que l'Église donne à ces expressions scripturaires. Et pour nous aider d'ailleurs à mieux les comprendre, j'irai glaner parmi les si touchantes litanies de Lorette, qui devraient souvent d'ailleurs venir enrichir la prière d'un chrétien, parce que les litanies, mes frères, c'est comme une corde aux innombrables brins, tous nous relient à la Sainte Vierge, mais chacun à sa manière. Marie, donc, est la gloire de Jérusalem. Jérusalem, vous savez, fut bâtie au commencement sur le mont Sion. Cette ville, construite par le peuple conduit de Dieu, voilà bien sûr l'image de la béatitude, le symbole très parlant du ciel, l'éternel Sion où Dieu règne avec son Fils Jésus en l'unité du Saint-Esprit. Mais parmi ces torrents de gloire, nous trouvons Marie, la première des rachetées, qui règne, elle aussi, aux côtés de son Fils. Les litanies de Lorette appellent la Vierge Marie « Tour de David ». Vous savez, cette tour, solide et splendide, élevée au cœur de Jérusalem, elle évoque pour nous la reine terrible, comme une armée rangée en bataille, la reine des anges, la reine du ciel, qu'évoquait dimanche dernier le cher abbé Garnier. Marie n'est pas que cela, elle est encore la joie d'Israël. Et Israël, c'est le peuple choisi, le peuple mis à part, le peuple d'élection. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Quant au nouvel Israël de Dieu, c'est nous, c'est l'Église, peuple nouveau, peuple choisi, qui naît dans le sang de Jésus. Et Marie a tant de titres, dont beaucoup n'ont été qu'à peine effleurés ce soir. Marie est pour ce peuple sa joie inaltérable. Marie est la joie d'Israël, la joie de la Sainte Église. Elle réjouit le cœur de son Jésus, tout autant que les cœurs de ceux qui deviennent en Jésus ses fils. Le dernier concile a proclamé devant tous les évêques du monde, presque le 21 novembre 1964, la bienheureuse Vierge, prédestinée de toute éternité à l'intérieur du dessein d'incarnation du Verbe, pour être la mère de Dieu, fut sur la terre en vertu d'une disposition de la divine providence, la vénérable mère du divin Rédempteur, généreusement associée à son œuvre, un titre absolument unique, humble servant du Seigneur. En concevant le Christ, en le mettant au monde, en le nourrissant, en le présentant dans le temple à son Père, en souffrant avec son Fils qui mourrait sur la croix, elle apporta à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareil, par son obéissance, par sa foi, son espérance, son ardente charité, pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. C'est pourquoi elle est devenue pour nous, dans l'ordre de la grâce, notre mère. Oui, mes frères, songez à cet étonnant mystère. Nous partageons avec Jésus une même maman, car notre dame est mère du Christ selon sa nature humaine, tandis qu'elle l'est pour nous selon la grâce. Avec les frères, nous pouvons dire qu'en Jésus, Dieu s'est fait homme afin que l'homme soit divinisé, mais nous ajoutons à cela que Dieu l'a fait cela en Marie, puisque c'est par Marie que Jésus assume notre humanité, et c'est encore par Marie que nous sommes enfantés à la divine grâce. Mes frères, en nous tournant ce soir vers Notre-Dame, nous pouvons lui dire, ou nous pouvons plutôt dire d'elle, comme Saint Bernard, des Maria, nous quam satis, jamais nous n'en serons blasés, jamais nous n'en parlerons assez, parce que Marie, comme le chante les Italiens, elle sera toujours la cause de notre joie, causa nostre laetitiae. Enfin, nous disons de la Sainte Vierge qu'elle est l'honneur de notre peuple. Ce peuple, bien sûr, c'est comme nous l'avons dit déjà, le peuple élu, le peuple choisi de Dieu. Quand tant d'Israélites avaient refusé d'entendre la parole faite chair, le Verbe incarné, il enlève mon oreille, ne s'est alors pas fermée. Et la première d'entre toutes, à la fois la plus grande et la plus petite, c'est Marie. Qu'il me soit fait selon votre parole, secundum verbum tuum. Au-delà de l'ange intermédiaire, ce verbe qui prend chair dans le sein de Marie, par le fiat de Marie, c'est le Fils de Marie. C'est une fille d'Israël qui est le sauveur de tous les hommes. Et ce peuple de Dieu, agrandi par le don de la grâce jusqu'aux extrémités du monde, c'est l'Église catholique, l'Église universelle, dont le plus beau fleuron est la Vierge Marie, mère de l'Église. Elle est, toujours selon la belle invocation des Litanies de Lorraine, invocation un peu curieuse, je l'avoue, un vase d'honneur. Comme le note le révérend Père Végamé, le terme hébraïque de vase, employé dans l'Écriture, est indéterminé et toujours qualifié. Il signifie un certain être, et lorsqu'on appelle Marie vase honorabile, vase d'honneur, on veut dire qu'elle est un être qu'on n'honorera jamais assez. Vase d'honneur, elle est comme un vase magnifique qui orne la plus belle pièce de la maison. Elle est le vase qu'on met à la place d'honneur parce qu'on ne voit rien de plus beau à y mettre. Mes frères, voyez comme il y a lieu d'honorer la très sainte Vierge en chacune de nos vies. Ne laissons pas ce vase fait du plus pur cristal qu'est Marie, l'Immaculée. Ne laissons pas ce vase tout ouvert de poussière au fond du grenier de notre âme. Ô non, mettons Marie à l'honneur par vos prières et peut-être surtout par la récitation quotidienne du chapelet, comme nous y invitait le Père Bernard Lainé le jour de l'État. Que Marie soit non seulement la tour de David, glorieusement campée au sein des nuées angéliques, mais qu'elle soit encore très présente au cœur même de notre quotidien, non pas seulement là-haut, mais en nous, dans nos cœurs, sur la terre. Elle y sera, pour chacun, je vous le promets, la cause de notre joie. Écoutez enfin ces paroles enflammées de saint Alphonse à Notre-Dame, lui qui fut si magnifiquement le chantre de la Reine du Ciel. Ô ma Reine Immaculée, je voudrais que tout le monde vous reconnût pour cette belle aurore, toujours ornée de la divine lumière, pour ce jardin fermé où Dieu trouva ses délices, pour cette fontaine scellée dont l'ennemi ne troubla jamais les eaux, pour ce lys éclatant de blancheur qui s'épanouissant au milieu des épines, loin d'en ressentir les atteintes comme les autres enfants d'Adam qui naissent comme nous avec la tâche du péché, apparu au monde dans l'éclat de toute sa pureté, de la beauté encore de l'amitié divine. Ah, permettez que je vous loue, comme vous louez votre Dieu lui-même. Vous êtes toute belle, il n'y a point de tache en vous. Oui, ô très pure et très blanche colombe, vous êtes toute belle, et toujours, toujours, vous fûtes l'amie de Dieu. Mes chers frères, nous retrouvons ici, sous la plume du grand docteur, les mots mêmes du Tota Pulchra Est Maria, cette prière du XIVe siècle. Nous ne savons pas qui l'a écrite. L'auteur est anonyme, et c'est tant mieux. J'y vois un signe, un encouragement à nous approprier chacun écrivait de Marie, comme mes yeux ont vu quelquefois un Christ en fleurs, frappé par un rayon de soleil qui perce les nuages, ainsi je vis le ciel. Une multitude de splendeurs illuminées d'en haut par des rayons ardents. Au centre de toutes ces fleurs était la Vierge, telle une rose couronnée de rayons lumineux, et j'entrevis sa beauté qui souriait au chant des anges à leur empressement autour d'elle. Et cette beauté faisait la joie des yeux de tous les autres saints. Mais bien, chers frères, laissons-nous aux bienheureux, laissons-nous aux anges et aux archanges le monopole de cette sainte joie, de cette contemplation magnifique. Pourtant, à nous aussi, pauvres pécheurs, pèlerins de cette terre, il est permis de faire entendre ces mots d'enfants pour leur maman. Vous êtes toute belle, mon mari, tota putra es Maria, et il n'y a pas de tâche en vous. Quelle est belle votre immaculée conception! Vous avancez comme une aurore rutilante, vous apportez les joies du salut. Par vous, le Christ Dieu s'est levé, par vous, le soleil de justice, ô brillante aurore de la vraie lumière. Votre vêtement brille blanc comme la neige, votre visage est comme le soleil. À votre suite, nous courons à l'odeur de vos parfums qui nous attirent. Jardin fermé, fontaine scellée, mère de Dieu et paradis de grâce. Vous êtes belle, ô Notre-Dame, tota pulchra es Maria. Au nom du Père et du Christ et du Saint-Esprit,